RFI 22h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Pagès.
Bonsoir à toutes et à tous. Le président palestinien appelle le Hamas à libérer les otages israéliens. Mahmoud Abbas accuse le mouvement islamiste d'avoir fourni à Israël des prétextes pour commettre ses crimes dans la bande de Gaza. Notre peuple en paie le prix, pas Israël, libérez-les, incitait Mahmoud Abbas. Ce mercredi, plus de 19 400 personnes ont afflué vers la basilique Saint-Pierre de Rome pour un dernier hommage au pape François. Le Vatican envisage de prolonger l'accès après minuit. Dans ce journal, on s'intéressera à un cardinal sud-coréen, le cardinal Lazar Yu, qui serait un des favoris pour prendre la suite du pape François. Et puis, 150 nouveaux mots, locutions ou expressions qui font leur entrée dans l'édition 2026 du dictionnaire Larousse. Certains, certaines sont connus, d'autres un peu moins. Olivier Roger nous explique tout cela à la fin de ce journal. Le président palestinien Mahmoud Abbas appelle le Hamas à libérer les otages israéliens. Un appel lancé de Ramallah en Cisjordanie occupée. Depuis 2007, c'est le Hamas qui dirige la bande de Gaza. Cet appel intervient alors que le mouvement islamiste a publié ce mercredi une nouvelle vidéo d'un otage en vie à Gaza et qu'au moins 36 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes, notamment contre une école qui abritait des familles de déplacés et aussi contre un hôpital pour enfants. Yelena Tomic.
L'offensive israélienne continue chaque jour de faire des victimes dans la bande de Gaza. Le Hamas retient 58 otages israéliens, dont 24 seraient toujours vivants, selon les autorités israéliennes. Dans ce contexte, le président de l'autorité palestinienne s'est adressé devant le conseil central de l'Organisation de libération de la Palestine à Ramallah. Il a lancé un message au Hamas, un appel sans équivoque.
Le Hamas a fourni à l'occupation criminelle des prétextes pour commettre ses crimes dans la bande de Gaza, le plus flagrant étant la détention d'otages. Pourquoi les ont-ils pris en otage? C'est moi qui en paie le prix, notre peuple en paie le prix, pas Israël. Vous avez vu combien le nombre de Palestiniens tués a augmenté depuis 2007? Nous en payons le prix chaque jour, libérez-les.
Mahmoud Abbas a également demandé au Hamas de remettre ses armes à l'autorité palestinienne et de se transformer en parti politique, une manière de replacer son entité gouvernementale au centre du jeu, une initiative qui n'est pas nouvelle. Abbas avait déjà appelé le mouvement islamiste à se placer sous la tutelle de l'autorité palestinienne sans succès, le Hamas lui reprochant de collaborer avec Israël et de réprimer les voix dissidentes en Cisjordanie.
Yelena Tomic. Washington met la pression sur Kiev et Moscou, alors que des discussions se tiennent à Londres aujourd'hui entre Américains, Ukrainiens et Européens. Le vice-président américain Jay Devens n'était pas au Royaume-Uni, mais en Inde, et c'est de là qu'il a lancé que Moscou et Kiev devaient parvenir à un accord, faute de quoi Washington mettrait fin à ses efforts pour arriver à un cessez-le-feu. Et Jay Devens de proposer des échanges territoriaux. Hier, Volodymyr Zelensky affirmait que Kiev ne reconnaîtrait pas l'occupation russe de la Crimée, ce que Donald Trump lui reproche aujourd'hui, l'accusant de saboter un potentiel accord avec la Russie. Pékin, de son côté, se dit ouvert à des discussions avec Washington sur les droits de douane. Réaction aux propos tenus hier par Donald Trump, qui annonce une baisse substantielle des droits de douane avec la Chine. Avec cette précision du président américain, c'est nous qui fixerons les termes de l'accord et ce sera un accord équitable. Des propos très bien accueillis par les bourses qui repartent toutes à la hausse, en Asie, en Europe. En Europe où toutes les bourses sont fermées, en nette hausse ce soir, hausse aussi aux États-Unis de Wall Street, alors que le dollar se renforce. On reste à New York, où ce mercredi, le nouveau procès Weinstein est entré dans le vif. Les premiers jours ont été consacrés à la constitution du jury. L'ancien magnat du cinéma américain est accusé de viol et d'agression sexuelle par des dizaines de plaignantes. En Californie, il a été condamné à 16 ans de prison. À New York, il avait écopé il y a 5 ans d'une peine de 23 ans de prison, annulée l'an dernier en appel pour vice de procédure. Mais les procureurs ont produit de nouveaux témoignages accablants. Harvey Weinstein est donc de retour devant un jury new-yorkais. Il avait tout le pouvoir, elle n'en avait aucun, a asséné d'entrée ce mercredi la procureure Shannon Lucey. Vincent Souriau.
5 hommes et 7 femmes chargés de rejuger un totem. L'homme par qui tout a commencé, Harvey Weinstein, le plus beau carnet d'adresses du cinéma américain, le faiseur de rois d'Hollywood, qui vous mènera sur le chemin des Oscars, mais à une condition, que vous couchiez avec lui. En 30 ans de carrière, Weinstein a fait miroiter le succès à des milliers de comédiennes qui se sont tues pendant des années avant que la parole ne se libère à partir de 2017. Plus d'une centaine d'actrices, dont des stars de renommée mondiale comme Angelina Jolie, Kate Blanchett, Blanchett, Salma Hayek ou Léa Seydoux ont fini par dénoncer ces crimes. Au mieux, des mains baladeuses, des propositions indécentes. Au pire, agressions sexuelles et viols. Les victimes racontent comment Weinstein a forcé la porte de leur chambre d'hôtel. Fellation forcée, pénétration contrainte. Un véritable violeur en série dont la ligne de défense n'a jamais bougé. Ses relations, dit-il, étaient consenties. La preuve, c'est que ces femmes ont continué de m'écrire pour me demander du travail. Un classique de la relation d'emprise que l'accusation va une fois de plus s'employer à réduire en miettes.
Vincent Souriau, RFI 22h05 à Rome. Près de 20 000 personnes ont afflué ce mercredi vers la basilique Saint-Pierre de Rome pour un dernier hommage au pape François, dont le corps est exposé jusqu'à ce vendredi. Et les fidèles continuent d'entrer dans la basilique ce soir, basilique monumentale. Le Vatican envisage de prolonger l'accès après minuit si nécessaire. Les funérailles, vous le savez, auront lieu ce samedi. 170 délégations étrangères et 200 000 fidèles sont attendus. Certains pays vont mettre leur drapeau en berne. C'est ce que fera la France sur les bâtiments publics. Une décision qui ne fait pas l'unanimité dans le pays. Plusieurs responsables de gauche, Marine Tondelier des Verts, Emmanuel Bompard de la France Insoumise, s'insurgent au nom de la laïcité. En tout cas, après les funérailles, il y aura le conclave pour l'élection d'un nouveau pape. Nous sommes mercredi, le pape est mort lundi, mais il y a déjà des hypothèses sur le nom de son successeur. Des médias italiens et sud-coréens parlent du cardinal Yu. À Séoul, la correspondance de Celio Fioretti.
Lazare Yu, 73 ans, cardinal sud-coréen, un nom qui pourrait devenir familier dans les prochaines semaines. Nommé cardinal en 2022 par le pape François, il était déjà très proche du souverain pontife qu'il avait accueilli en Corée du Sud en 2014. Lazare Yu partage les idées du pape François quant aux réformes de l'Église et a rapidement grimpé les échelons ecclésiastiques pour être aujourd'hui dans la haute administration du Vatican. Pour les croyants réunis à la cathédrale de Myeongdong à Séoul pour prier pour le pape François, le cardinal Yu pourrait être un digne successeur.
Le cardinal Yu vit vraiment dans l'esprit du pape François. Proche des pauvres, des faibles. Donc je pense qu'il est tout à fait qualifié.
Je ne le connais pas très bien, mais s'il devenait pape, oui, ça m'irait parfaitement. Ce serait un immense honneur pour la Corée qu'un de ses fils devienne pape.
Le cardinal Yu ne s'est pas exprimé sur cette hypothèse, mais a affirmé tout l'intérêt que portait le pape François à la Corée, précisant même qu'il aurait souhaité aller en Corée du Nord pour soulager les souffrances des Nord-Coréens. Celio Fioretti, Séoul, RFI.
Ça me poignarde le cœur, la réaction du Premier ministre français François Bayrou après les déclarations de sa fille. Hélène Perlon affirme dans un livre qui sera publié demain qu'elle a été passée à tabac lorsqu'elle était adolescente dans un camp d'été organisé par la congrégation à laquelle appartient l'établissement Notre-Dame de Bétarame. François Bayrou qui affirme, comme l'a d'ailleurs dit sa fille, qu'il n'était pas au courant. Glamping, dramédie ou biopesticides, ce sont quelques-uns des 150 nouveaux mots, locutions ou expressions qui font leur entrée dans l'édition 2026 du dictionnaire Larousse. Le magazine français Le Point s'est procuré la liste en avant-première. Tous ces mots traduisent l'évolution de notre société, la vitalité de la francophonie, mais il y en a peut-être certains que vous ne connaissez pas. Pas de panique, Olivier Roger est là.
Qui n'a pas rêvé de pratiquer le glamping, autrement dit le camping glamour, plus luxueux que la bonne vieille tente quechua. Et si le glampeur a emporté son ordinateur, il pourra regarder une dramédie, genre hybride mêlant le drame et la comédie. Avant, on appelait cela une comédie dramatique, mais voilà, tout évolue, on ne va pas bader pour si peu. Bader, qui vient de l'anglais bad et signifie s'attrister, a lui aussi fait son entrée dans le dictionnaire. L'anglais fournit chaque année son lot de néologismes à la langue française. C'est le cas de food truck, l'ancienne bar à frites, de même que les questions environnementales, biopesticides, autrement dit un pesticide naturel. Pour choisir ces mots, Larousse s'appuie sur deux critères. Le terme doit être partagé par plusieurs professions ou plusieurs générations et surtout circuler dans le langage courant. À cet égard, le mot de l'année est indéniablement le fameux prompt, la suite d'instructions dictées à une intelligence artificielle pour qu'elle travaille à votre place. Par exemple, rédige-moi un papier drôle et bien écrit sur les nouveaux mots du dictionnaire, en quelque sorte pour les journalistes, le mot de la fin.
Du judo maintenant, le français Daiki Buba devient champion d'Europe des moins de 66 kilos. Pour la première fois, il l'a emporté face au russe Murat Chopanov. Par contre, c'est la quatrième fois que la française Shirin Boukli, 26 ans, est sacrée championne d'Europe des moins de 48 kilos. C'était face à la portugaise Katarina Costa, RFI, 22h10 à Paris.